Jean-Antoine, il est l'heure de te lever. Jean-Antoine, il est l'heure de te lever.
Chap time.
L'interview du jour.
Actualité.
Billet d'humeur.
Revue de presse.
Micro couloir.
Ah, c'est compliqué à définir pour le coup.
C'est possible que les jeunes aient plus de vocabulaire que nous autres.
Ça veut rien dire.
Quelque chose d'inouï, dont on trouverait difficilement le terme.
Je sais pas moi.
On en apprend tous les fois que je le connais, mais je suis pas sûre.
Non, c'est ridicule, pardon.
Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour la 4e émission de Chaptime, l'atelier des élèves du lycée Chaptal de Mende. Aujourd'hui, je remplace Erine qui est malade et que l'on salue tous. Alors, il y a quelques semaines, c'était la semaine des maths au lycée. Avec l'équipe, on a donc décidé de vous parler un peu de ces mathématiques. On commencera donc par une chronique sur Enigma, puis Octave continuera en expliquant son fonctionnement, et enfin, Alexandre nous parlera un petit peu du système RSA. Pierre nous fera découvrir trois jeux de mathématiques et de logique. Justin et Gabriel nous parleront de Tesla et j'évoquerai avec vous la marche pour le climat qui s'est passée en mars dernier. Et enfin, nous aurons droit à notre lecture de l'atelier d'écriture et au mot mystère. Du coup, je vais vous présenter Enigma. Mais qu'est-ce que c'est Enigma ? Enigma est une machine à chiffrer inventée initialement par Arthur Scherbius et Richard Ritter en 1918. Cette machine était conçue de base pour s'amuser. Elle connaît en réalité un grand succès commercial. Près de 30 000 modèles civils sont vendus, notamment à des banques ou à de grandes compagnies. L'armée allemande se fait alors fournir massivement d'une version militaire de cette machine pour la Seconde Guerre mondiale. Elle se présente sous la forme d'une caisse en bois, pèse une douzaine de kilos. Le principe de fonctionnement d'Enigma est à la fois simple et astucieux, mais compliqué. Octave vous en parlera plus tard. Ainsi, si le commandement allemand et le sous-marin ont le même réglage de départ, il suffit à l'opérateur du sous-marin de taper directement le message codé pour obtenir le message clair. Les Allemands avaient donc diffusé dans leur service des carnets de code permettant de réactualiser chaque jour à minuit les machines par la position initiale des rotors. Ces carnets de code étaient valables un mois. Les Allemands ont une confiance totale en la machine Enigma, dont ils fabriqueront 100 000 exemplaires. Ils s'échangeaient des communications radio cryptées, persuadés que jamais les Alliés ne les comprendraient. Les Anglais ont compris assez tard l'intérêt de la machine Enigma. En 1939, le service du chiffre décide de s'éloigner de Londres et des futurs bombardements pour s'installer au manoir de Bletchley Park, au nord de Londres. Devant l'urgence de la situation, les meilleurs mathématiciens, linguistes et même joueurs d'échecs sont appelés à Bletchley Park, où plusieurs milliers de personnes se comptoiront. Parmi elles, Alan Turing, un logicien et mathématicien qui, quelques années plus tôt, a conçu une machine universelle qui formalise la notion d'algorithme et est le précurseur des ordinateurs modernes. Il conçoit une nouvelle machine automatique, inspirée de la bombe polonaise, pour déchiffrer les messages allemands. En février 1942, une nouvelle version de la machine Enigma est mise en service, provoquant un nouveau trou noir dans le décryptage des messages. Grâce à des documents récupérés sur un sous-marin allemand, et à l'aide technique des États-Unis, Bletchley Park retrouve mi-1943 la faculté de décrypter les messages allemands. En 1944, le premier ordinateur de l'histoire, le Colossus, leur garantira une puissance de calcul suffisante jusqu'à la fin de la guerre. Les Allemands ne se doutaient pas que leur message était décrypté. Ils pensaient seulement qu'aucun homme arriverait au bout d'un travail aussi titanesque. Le travail d'Alan Turing pour décrypter les messages allemands a profondément changé le cours de la Seconde Guerre mondiale. Plusieurs centaines de navires, leur équipage et leur cargaison furent sauvés. Le débarquement de l'été 44 a pu être préparé en toute sérénité, grâce au génie d'un mathématicien. Maintenant, je te laisse la parole, Octave, pour nous expliquer comment marche Enigma.
Bon, Alan Turing a craqué un code censé être incraquable, mais personne ne sait vraiment pourquoi ce système était incraquable. Je vais essayer de vous montrer que l'humanité, sans l'aide d'une machine, ne pourra plus jamais surpasser une autre machine. Si je vous dis qu'en mélangeant un paquet de cartes, vous créez un mélange que personne n'a eu, ni avant vous, ni après vous, dans l'histoire, est-ce que vous me croirez ? Si je vous dis que vous avez plus de chances de vous faire écraser par une météorite que de gagner au loto, est-ce que vous me croirez ? En réalité, tout est vrai, et c'est grâce à la combinatoire, un domaine bien précis des mathématiques, qui est utilisé depuis longtemps dans de nombreux domaines. C'est la combinatoire, et aujourd'hui, nous allons nous intéresser à l'application de la combinatoire dans les codes secrets. Avant de vous montrer la machine d'Enigma, je vais vous expliquer qu'est-ce que les codes par substitution. C'est simplement la réécriture d'une série de caractères par d'autres caractères. En gros, on remplace A par B, C par D, etc. C'est ce que l'on appelle le code César. L'espace entre deux caractères s'appelle la clé de chiffrement. Dans le simple des exemples, on remplace A par B et ainsi de suite jusqu'à Z par A. Cet exemple utilise une clé de chiffrement égale à 1, car une seule lettre sépare A et B. Maintenant, je vous donne, disons, le message suivant. N, G, E, Q, F, G, G, U, V, V, T, Q, K, U. Et je vous demande de le déchiffrer sans la clé de chiffrement. Je peux vous dire que vous avez sacrément galéré, mais par chance et par persévérance, vous allez finir par traduire le code par la phrase « Le code est 3 ». Et en effet, la clé de chiffrement est 3. Réfléchissez juste à ça. Un code inventé à l'époque des Romains peut être vraiment fastidieux à déchiffrer pour un humain sans la clé de chiffrement alors que nous avons quand même 2 millénaires d'écart. Je vais vous détailler un peu le fonctionnement de la machine Enigma et vous allez comprendre pourquoi le système se complique un petit peu. Enigma, c'est une machine, bon, merci, mais une machine qui fonctionne à l'aide de câbles et de rotors. On peut changer la position de ces câbles et la taille des rotors pour faire varier un chemin à l'intérieur de la machine. Dans le résumé, ce chemin va associer mécaniquement une lettre à une autre. Mais et c'est ici que tout se joue, toute la subtilité de la machine. Lorsqu'on appuie sur une touche, une lettre va être associée à la touche, mais dans le temps suivant, les rotors vont changer de position, si bien que taper 2 fois la même lettre ne conduira pas à avoir 2 fois sa copie. Pour reprendre l'exemple de tout à l'heure, avec une clé de chiffrement égale à 1, si l'on tape A à la machine, elle va donner B. Mais si l'on retape A, alors la machine peut ressortir un W, un Z, un I, qui peut savoir. Vous pouvez imaginer comment on peut réussir à craquer ce genre de code. En réalité, il est possible de le craquer à la main avec du stylo et du papier. Mais si toute l'humanité essayait en même temps de craquer le code, on mourrait tous avant d'avoir réussi. Ne pensez pas non plus au hasard. Le système de câbles suivant les rotors fait en sorte qu'en prenant en compte toutes les possibilités, c'est mathématiquement impossible de trouver la bonne combinaison au hasard. Ça reviendrait à trouver non pas une aiguille dans une botte de foin, mais un grain de sable dans le Sahara. Je peux rajouter en précisant que les Allemands changeaient leur code tous les jours, ce qui fait que même en trouvant le grain de sable de nos rêves, il disparaîtrait en 24 heures. Vous comprenez pourquoi il est difficile pour un humain de craquer cette machine. Turing a construit une machine contre une machine. La seule action qui a permis à la machine de Turing de fonctionner est la présence de mots spécifiques dans les messages allemands, qui, même codés par des lettres incompréhensibles, se trouvaient toujours à la même position. La machine a pu interpréter le code en moins de 20 minutes, et de là, Enigma était craqué. De nos jours, on n'utilise plus ce système vraiment archaïque. Des mecs en costume ont inventé des systèmes encore plus ingénieux pour coder un message strictement incraquable. Enfin, Enigma aussi était censé être incraquable, mais je laisse Alexandre vous en parler.
C'est le système RSA. Aussi connu sous le nom de chiffrement RSA, non, ce n'est pas le revenu de solidarité active, mais c'est un algorithme de cryptographie. Pour les non-connaisseurs, un algorithme est un système pour des problèmes, comme des recettes, des problèmes de maths, etc. La cryptographie, c'est le fait de rendre un message codé ou non secret. Pour le rendre confidentiel, comme des messages de l'État, cela a été beaucoup utilisé durant la Seconde Guerre mondiale par les Allemands grâce à une machine nommée Enigma, n'est-ce pas, Eli et Octave. Donc, le système RSA est fondé en 1977, permet donc d'échanger des données confidentielles par Internet. Depuis l'an 2000, ce système est devenu public. RSA, c'est les initiales de ses 3 fondateurs. Ronald Rivets, Adi Shamir et Leonard Adleman. Il est encore partout, dans nos cartes bancaires, transactions, messages, etc. Ce système fonctionne à l'aide de nombres premiers. C'est un nombre qui est divisible que par 1 ou par lui-même. Par exemple, 8 n'est pas un nombre premier, car c'est 2 fois 4 et 1 fois 8. Alors que 17 n'est que divisible que par 1 ou par lui-même. Dans le système RSA, pour crypter un message, on envoie au destinataire un nombre qui est le produit de 2 nombres premiers. Par exemple, 15 c'est égal à 3 fois 5, dont 3 et 5 sont des nombres premiers. Sauf que l'on utilise des nombres tellement grands que le destinataire doit posséder au moins l'un des 2 nombres pour décrypter le message. Sinon, il faudrait des millions d'années pour pouvoir le décrypter. C'est les HTTPS que l'on trouve sur les sites sécurisés dans les liens Internet.
Merci beaucoup Alexandre et Octave pour cette rubrique sur les systèmes de chiffrement en général. Et maintenant, Pierre va nous parler de quelques petits jeux de mathématiques et de logique.
Alors, bien le bonjour à tous, j'imagine que vous avez reconnu ma voix depuis le temps. On va parler de maths. Bon, je dirais qu'il va y avoir 2 genres majeurs de réactions à la suite de cette phrase. On peut dire que déjà, il y aurait eu du dégoût, beaucoup de dégoût. Et de l'autre, je pense que les autres s'en sont fichés. Évidemment, je continue de rester dans ma zone de confort en ne parlant que de choses sur lesquelles je suis calé. Et cette fois-ci, je vais parler à l'occasion de l'épidémie de mathématiques du lycée, de jeux de société que vous pourrez essayer à votre prochaine réunion de famille, à votre prochaine pause café. Ou encore, au retour de ce moment paisible qui nous fut dérobé par Monseigneur le Temps, je veux bien sûr parler des vacances. Bon, les maths, Je pense qu'on peut tous se dire que, mis à part quelques exceptions, c'est chiant les maths. Mais que ceux dont cette matière est la bête noire, un peu comme moi, pardon, quinte de tout, ne s'inquiète pas, car je parlerai de jeux et non de mathématiques en elles-mêmes. Jeux que vous pourrez, comme je l'ai dit plus tôt, essayer avec votre famille et vos amis. Alors cette fois-ci, on est cool, on est relax. Bien, cette introduction beaucoup trop longue, comme j'ai l'habitude d'en faire, étant terminée, je peux dès à présent vous présenter mes trois jeux de mathématiques et de logique. Le premier, dans l'esprit du Shifumi, ou du pierre-feuille-ciseau selon le nom que vous préférez, se joue à deux, et la base de ce jeu est celle-ci. Tout d'abord, on compte jusqu'à 3, puis les deux joueurs font avec une de leurs mains un chiffre de 1 à 5 pour gagner des points, et le premier qui arrive à 20 a gagné. Viennent s'y ajouter plusieurs règles, 3 précisément, qui régissent le gain de points. Premièrement, si les deux joueurs font le même chiffre, personne ne gagne de points et l'on rejoue le tour. Si la différence entre les deux mains est supérieure à 1, le joueur avec la plus grande main gagne la différence entre les deux. Par exemple, si je fais 3 et mon adversaire Ellie, par exemple, fait 5, la différence est de 2, donc mon adversaire gagne 2 points. Et la troisième et dernière règle qui va empêcher les joueurs de tout le temps faire 5, sinon ça serait trop facile, hein, c'est que si la différence entre les deux mains est d'exactement 1, c'est le joueur ayant la main la plus faible qui va gagner non pas la différence, mais la somme des deux mains. Ce qui veut dire que dans le cas où je ferai un 4 et mon adversaire un 5, c'est moi qui gagnerai non pas 1, mais 9 points. Alors j'aime bien ce jeu-là, personnellement, parce que justement c'est comme le Shifumi, mais en plus compliqué et surtout en plus subtil. Bien, maintenant, passons au second, qui lui se joue à autant de personnes que vous voulez, pourvu que vous ayez les ressources, hein. Ce jeu-ci a un nom et s'appelle le jeu d'Eleusis. Alors, il est un peu spécial. C'est un jeu dont le but, c'est de trouver la règle. Je m'explique. Premièrement, on choisit un joueur parmi tous les autres qui sera appelé le joueur dieu. Ce jour-là est à part entière. Vous allez voir pourquoi. Deuxièmement, on distribue un paquet de cartes entiers, ou plus selon le nombre de joueurs, de manière égale entre tous les joueurs, sauf le joueur dieu. Va de son côté créer et écrire sur un bout de papier, pour essayer de s'en rappeler quand même, une règle selon laquelle il va déclarer les cartes que les autres joueurs vont lui donner comme respectant ou non la règle. Et les joueurs normaux vont quant à eux, comme je l'ai dit, donner des cartes au joueur dieu dans le but d'obtenir des informations sur la règle et de pouvoir la deviner. Le premier d'entre eux qui devine la règle a gagné la manche et devient le prochain joueur dieu. Pour donner un exemple concret, parce que ce jeu-ci est un peu compliqué à comprendre, j'ai eu l'impression. Si j'étais joueur dieu, je pourrais inventer comme règle, seules les figures respectent la règle. Vous savez, les figures, les petits personnages. Le roi, la reine, tout ça. En revanche, une règle trop compliquée comme par exemple « toutes les cartes sauf le 7 de cœur respectent la règle » est inacceptable, car les joueurs, devant deviner la règle, ont un droit de veto. C'est-à-dire que si personne n'a trouvé la règle et que les joueurs la considèrent comme trop dure à trouver, on dit que le joueur dieu a triché et un autre le remplace. Voilà, ça c'était le jeu d'Eleusis. Un peu compliqué mais quand même sympa, ça peut occuper pendant pas mal de temps. Alors, le troisième et dernier jeu, c'est le jeu des trois cailloux. Et il est pas mal aussi, parce que mine de rien, il vous fait travailler vos cours de proba et vos connaissances en stratégie. La première règle... Non, c'est pas une règle, c'est juste une étape, pardon. On donne à chaque joueur trois petits objets pouvant tenir tous en même temps dans la main. Des Legos, par exemple. Ces objets, il les cache dans son dos en les tenant des deux mains. Ensuite, on compte jusqu'à 3, et chaque joueur prend dans une de ses mains, sans les montrer, un nombre de cailloux pouvant aller de 0 à 3. Ensuite, chacun leur tour, les joueurs annoncent combien ils pensent qu'il y a de cailloux en jeu, au total. Sachant qu'on ne peut pas faire deux fois la même annonce, c'est-à-dire que si un de mes adversaires a dit qu'il pensait qu'il y avait 4 cailloux en jeu, je ne peux pas dire la même chose. Je vais pouvoir dire 3, 5, 2, 1, tout ce que vous voulez, sauf 4. Ensuite, quand tout le monde a donné son hypothèse, eh bien, on montre combien il y a de cailloux au total en jeu, et celui qui a annoncé le bon total peut s'enlever un caillou, le but du jeu étant... évidemment, de ne plus avoir aucun caillou pour gagner, comme au Uno. Voilà. Alors, c'était mes trois jeux de maths et de logique. J'aurais pu vous parler du dilemme du prisonnier, du jeu de la vie de John Conway, qui n'en est pas vraiment un, mais qui vaut le coup de jeter un œil, ou encore des propriétés étranges du nombre 1401-2857. Mais là, ce sera à vous de chercher des infos sur ces trucs.
Merci beaucoup, Pierre. Et vous, les autres, vous connaissez des jeux, enfin des jeux mathématiques, ou alors... Vous connaissez ce dont il a parlé? Vous avez quelque chose à dire par rapport à ça?
Je connaissais le jeu des cailloux et le jeu du dilemme du prisonnier qu'il en a parlé à la fin, mais le reste, non.
Moi, j'ai pas compris tous les jeux. Après, ça avait l'air très intéressant et je vais faire des recherches sur Internet pour en savoir plus.
Moi qui ne suis pas du tout fan de maths, je ne connaissais absolument pas ces jeux et je pense qu'on peut s'amuser avec d'autres jeux que des jeux avec des cailloux.
Et quant à moi, qui ne suis pas du tout matheux non plus, ben je connaissais le jeu de la vie, de réputation, et sinon ben je connaissais parce que j'ai vu Pierre écrire sa chronique. Voilà. Merci beaucoup à tous, je reviens juste après une petite pause musicale pour vous parler de tout ce qui se fait au lycée le vendredi après-midi, en lien avec Youth for Climate et la jeunesse.
Raconter des salades, disent que la terre est en danger, disent que notre planète est malade. Ils me font flipper ces écolos, à nous dire qu'on va tous crever. Faudrait qu'on roule tous à vélo, et pourquoi pas voter Beauvais. Moi je préfère rouler en humeur, manger des sandwichs OGM. Climat fond, 300 à l'heure, total GPS, GSM. Vu qu'on doit tous y passer, alors allons-y tous en même temps. Faisons pas les choses à moitié, profitons-en. Niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète, niquons la planète. I have a dream, j'ai fait un rêve d'une guerre mondiale nucléaire où les enfants d'Adam et Ève s'entretueraient comme des frères. I have a dream, oui j'ai rêvé d'un tsunami, tremblement de terre qui détruirait l'humanité, nous enverrait tous à l'enfer. Faisons péter la couche d'ozone, rasons tout, faisons place nette. Ne laissons surtout pas nos mômes le plaisir de payer nos dettes. I have a dream, je vous le dis, I have a dream, alléluia. Et quand viendra ce jour béni, prions pour voir ça. Niquons la planète, niquons la planète. De la dioxine dans nos desserts, des piscines en plein désert, 50 degrés en plein hiver. Et tant pis pour l'ours polaire, un ours, à quoi ça sert?
Niquons la planète.
Et bienvenue à nouveau, c'était HKL et Saltimbanque, Niquons la planète. Et restons dans ce thème, car je vais vous parler de tout ce qui se passe dans le lycée et dans la jeunesse en général par rapport au climat. Donc, le vendredi 15 mars dernier, en France et dans le monde, la jeunesse a fait grève. Et au CHAP aussi, on a fait grève. Et c'était même très très productif. La matinée était consacrée à des débats et l'après-midi, on est tous allés dans la rue pour manifester. Et voici tout de suite ce qu'en pensait Madame Gros-Claude, CPE du CHAP.
Je suis ravie de voir que cette initiative n'est pas venue ni de moi, ni des adultes, ni des autorités qui nous gouvernent, à savoir le gouvernement, le rectorat, etc. Et je suis ravie de voir que les élèves, par eux-mêmes, préparent ce grand mouvement de la journée depuis déjà longtemps. Je suis ravie ce matin sur le terrain de voir le nombre de gens qui assistent aux conférences, parce que j'ai essayé d'aller écouter un petit peu quand j'avais un petit peu de temps. Alors les élèves disent, enfin les adultes disent, oui, mais bon, un mouvement comme ça, il faut pas que ça reste à l'état d'un mouvement comme ça. Quelles actions prévoyez-vous? Alors certes, on attendrait des actions derrière, mais déjà la prise de conscience est quelque chose qui pour moi est absolument essentiel. Si déjà les élèves acceptent de réfléchir et que des jeunes se mobilisent à ce point aujourd'hui, ici, dans notre lycée, c'est bien sûr une échelle, c'est une goutte d'eau dans la mer, mais s'il y a beaucoup de gouttes d'eau, on pourra peut-être, éventuellement, amorcer quelque chose.
Donc, en préambule de ces débats, les activistes chaptaliennes de Youth for Climate ont lu le manifeste de la jeunesse pour le climat, donc le manifeste de Youth for Climate, donc qui a été écrit par des étudiants français qui font eux aussi partie de Youth for Climate.
Depuis des années, diverses personnalités et groupes appellent à l'action, tandis que d'autres espèrent le changement. Aujourd'hui, nous n'en faisons plus partie. Atterrés par l'ampleur des catastrophes qui nous menacent et nous affectent déjà, et l'inefficacité patente des politiques entreprises jusqu'alors, nous hurlons. Nous hurlons notre crainte, notre frustration et notre désespoir face à l'immensité du défi qui nous revient. Nous hurlons la nécessité d'agir tout de suite et non demain ou dans 10 ans, pour défendre notre droit à l'avenir. Nous hurlons, enfin, que tous les modes d'action pacifiques sont légitimes pour protéger notre vie.
Aujourd'hui, nous appelons chacun et chacune à se mobiliser de façon pacifique, inclusive et inconditionnelle pour la lutte contre le dérèglement climatique et la destruction du vivant. Car si ce n'est pas nous, qui le fera? Si ce n'est pas maintenant, quand le fera-t-on? Nous appelons la jeunesse à se réapproprier ces espaces communs. Établissements d'enseignement, primaires, secondaires et supérieurs, le travail et d'activités et lieux de vie. Pour cela, nous encourageons chacun et chacune à se mobiliser partout en France et à définir ses modes d'action locaux.
Et cette mobilisation a bien eu lieu. Le débat s'est ensuite enchaîné sur la question suivante. L'urgence climatique est-elle telle qu'elle justifie une grève scolaire? Et c'est intenable pour moi de vous résumer là 2 heures de débat. Je vais donc vous laisser avec quelques petites informations que j'ai captées qui peut-être, sans doute, vont vous aider à vous faire votre opinion sur cette question.
Il y a eu plein de périodes de glaciation et de réchauffement qui sont tout à fait effectivement naturelles et je voulais juste vous montrer un graphique. Vous savez qu'on peut dans les glaces retrouver sur 800 000 ans l'évolution de la composition de l'atmosphère et de la température de l'atmosphère. Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a eu des périodes de réchauffement et de glaciation qui ont alterné environ tous les 100 000 ans et qui sont complètement naturelles puisque l'apparition d'Homo sapiens c'est 200 000 ans. Donc depuis 800 000 ans, tous les 100 000 ans, bien sûr, nous, on n'était pas là. Et puis la révolution industrielle, de toute façon, c'est encore plus récent. Sauf qu'en fait, on voit des variations, des fluctuations donc de température et de concentration de CO2 qui sont corrélées. Hein. Les concentrations de CO2 augmentent légèrement avant l'augmentation de la température. Sauf qu'en fait, on atteint des concentrations de CO2 jamais atteintes jusque-là, même dans les périodes les plus où la concentration était le plus élevée au cours des 800 000 ans derniers. Chaque pic que vous pouvez voir de la concentration en CO2, on a un pic de la température qui est corrélé. On a observé des températures enregistrées donc dans les glaces qui étaient légèrement à la moyenne actuelle, hein, légèrement supérieures pardon à la moyenne actuelle. Par contre, les concentrations en CO2 n'ont jamais été supérieures au trait bleu que vous voyez. Et l'observation en 2008, c'est le point bleu, on était déjà largement supérieur au maximal observé depuis 800 000 ans. Et puis le scénario moyen prévu pour 2100, c'est-à-dire moyen, pas le pire, c'est le point vert. Et puis, si on continue sur cette lancée sans faire aucun progrès, parce que même les décisions qui ont été prises pour l'instant ne changent pas grand-chose, eh bien, c'est le point jaune là-haut. Et ça, le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de comment ça pourrait faire évoluer les choses des concentrations tellement hautes en CO2.
Alors, vous venez d'entendre la voix de Madame Fanny Quiles, professeure de SVT au CHAP, qui nous donnait des informations pour alimenter le débat. Peut-être que vous pensez que la situation n'est pas pressante. En tout cas, pour mes camarades, elle l'est.
En vrai, jusqu'à présent, j'étais pas vraiment ultra renseignée, donc je savais que ça allait pas bien, parce que quand même, on en entend beaucoup parler. Et ça me fait chier, en fait. Ça me fait vraiment chier qu'on soit dans cette situation-là, et ça donne vraiment envie de bouger, et comme là on est plein, on est jeune, et que qu'on fait quelque chose, ça donne envie d'agir, ça fait plaisir.
Tout le monde sait que que les espèces sont en train de mourir petit à petit, qu'il y a des populations qui doivent bouger. Mais personne n'y croit, personne n'est fait, n'a peur en fait. Et donc il faut que maintenant les gens aient peur et se disent maintenant il faut que je change mon quotidien. Et je pense que c'est pas possible de changer entièrement son quotidien si on n'est pas aidé par, par le gouvernement, et qu'il faudrait peut-être changer le fonctionnement, enfin notre façon de fonctionner, mais ça demande du taf, ça va faire peur, ça va créer des choses, mais je pense qu'on est obligé de passer par là.
L'environnement est en train de mourir en général avec la pollution, donc ça, forcément que ça provoque un changement climatique important. Je pense que c'est un peu déjà trop tard, mais si on s'y met vraiment tous ensemble, genre tout le monde entier, bon ça se fera jamais, hein, mais je pense qu'on pourrait changer grandement les choses et les améliorer. Si on peut pas changer, on peut au moins améliorer, quoi.
C'est désespérant et tout, mais moi je pense que c'est rattrapable et que si on s'y met tous, c'est vraiment possible que la Terre aille mieux. Et puis, je dirais que le plus important, c'est vraiment le changement d'énergie, parce que, et puis la prise de conscience du gouvernement surtout.
Faut pas que la peur soit un obstacle, là. Faut que ça motive en fait. Faut pas que la peur soit une barrière devant nous, faut que ce soit un chien qui nous court après.
Donc, après ces débats, l'après-midi, les élèves et moi-même aussi donc, on est tous allés manifester dans les rues de Mende. Beaucoup ramassaient les mégots et les déchets qui traînaient. Mais vu que ce n'était pas le but premier de la marche, c'était pas très efficace, mais plutôt très symbolique.
On est certes peut-être pas beaucoup, j'ai certes peut-être plus de voix, mais je trouve ça chouette. Surtout qu'il y a des gens qui nous regardent avec un petit peu de je sais pas, ça se dit pas, mais de gênance. Quand ils nous voient ramasser les mégots, ils disent « putain, ça pourrait être le mien ». Et je trouve ça trop jouissif de voir les gens un petit peu gênés pendant que nous, on se saigne les ongles à ramasser des mégots dégueulasses.
Et d'autres étaient très remontés aussi.
On s'est adressé aux personnes qui sont d'accord avec notre mouvement, avec nos idées, avec etc., etc., mais qui le font dans le confort de leur canapé. Ça sert à rien d'être d'accord. Tout le monde peut être d'accord, mais tout le monde ne peut pas faire des vrais changements. Et il faut venir. Et si on est d'accord, eh ben on le montre.
Et finalement, la manifestation s'est terminée avec un très beau symbole dont on m'a expliqué l'idée juste avant que ça se passe.
Bah alors là, en fait, on finit la manif qui s'est plutôt bien passée, voilà, je suis contente. On finit sur la sirène et on va faire une chorégraphie de mort sur la place de la cathédrale.
Une chorégraphie de mort ?
Ouais, on va tous allonger par terre, tu vas voir, c'est marrant.
Ça empirera si l'État se couche pas, ça empirera.
Après cette belle image qui est restée gravée dans mon esprit depuis, de tous mes camarades qui faisaient les morts, un mégaphone a tourné pour créer un instant de parole, libre, où tout le monde était invité à s'adresser à tous les autres.
Les catastrophes liées au climat sont de plus en plus nombreuses, des millions de personnes sont obligées de migrer vers d'autres territoires, et dans le même temps, la température atteint moins 48 degrés à Chicago et plus 49 en Australie. L'humanité court à sa perte et depuis plus de 50 ans, les scientifiques nous le disent, nous le répètent. Et pourtant, les pouvoirs publics et multinationales ne font strictement rien. Et comme le dit Greta Thunberg, puisque nos leaders se comportent comme des enfants, nous sommes obligés d'assumer la responsabilité qu'ils auraient dû endosser il y a bien longtemps. Voilà.
Bon, alors du coup, beaucoup de choses ont été dites aujourd'hui entre les différents ateliers du matin et là les prises de parole diverses. Moi j'ai juste envie de dire que si on pouvait continuer ce serait bien. N'hésitez pas à venir à créer des choses avec vos potes, à en parler. Nous on a commencé à monter des réseaux entre nous, donc vous nous connaissez et venez nous voir et lancer des trucs. Ou si vous savez pas comment les lancer, venez nous voir, mais faut qu'on y aille, là, on y va. Et de toute façon, on n'a pas le choix, on y va, qu'on soit avec ou pas, donc autant le prendre et autant y aller.
Et le mouvement continue. Depuis, on a organisé une clean walk, donc cette fois, on a marché spécialement pour nettoyer les rues. Et du coup, on a sionnément en ramassant méthodiquement les déchets. Et on n'avait pas de pancarte, du coup, on a été beaucoup plus efficace que pendant la première manif. Et le résultat a été très effrayant. Et le vendredi 12, nous sommes allés essayer d'installer une discussion avec les passants et les clients de McDonald's de Mende afin de faire de la prévention quant à ce que ce genre de nourriture, donc la junk food, la nourriture de fast food, faire de la prévention quant à ce que ça fait au corps du consommateur, à son portefeuille aussi du consommateur, car c'est une nourriture qui peut devenir très addictive, et surtout ce que ça fait à la planète. Et enfin, le vendredi 19 avril, les représentants mandois de Youth for Climate, ainsi que quelques-uns de leurs camarades du CHAP et des deux autres lycées de Mende, vous rencontrez plusieurs élus lausériens au sein du CHAP dans la chapelle, pour leur parler notamment du dernier rapport du GIEC, et plus généralement de ce qui est politiquement possible pour agir efficacement contre la fin du monde qui est en marche. Si vous êtes intéressé par ce que nous faisons, que vous voulez participer aux actions ou juste vous en informer, je vous invite à suivre la page Facebook de l'antenne lausérienne de Youth for Climate. Le lien sera juste en dessous si vous nous écoutez en podcast. Et maintenant, je laisse la parole à Justin et Gabriel qui vont nous parler d'Elon Musk et de son entreprise Tesla. Pas très durable ça, hein ? Allez, je vous laisse la parole.
Salut Justin, comment vas-tu ?
Mal, très mal. Et toi ?
Ouais, ça va. Pourquoi tu vas mal ?
J'ai encore loupé mon permis de conduire.
Encore ? Et au bout d'un moment, ils vont finir par te le donner.
Ha ha, très drôle. En tout cas, j'ai hâte qu'il y ait des voitures qui se conduisent toutes seules.
Et sais-tu que c'est possible maintenant ?
Comment ça ?
Eh bien, un millionnaire américain l'a créé. Cette voiture s'appelle Tesla.
Et on peut l'acheter ?
Oui, mais il faut quand même posséder le permis de conduire, au cas où la voiture est une anomalie.
Eh mince, je me débarrasserai jamais de ce foutu permis.
Il vaut mieux quand même que tu conduises une voiture normale, car la Tesla coûte 53 500 euros et fait du 0 à 100 en moins de 5 secondes.
Ah oui, quand même.
Connais-tu le prénom de la personne qui l'a créée ?
Non, aucune idée.
Puisque la plupart des personnes ne connaissent pas le génie qui a créé ce véhicule, cette émission ne sera pas sur la musique, pour une fois, mais sur Elon Musk.
Et Elo quoi ?
Elon Musk, le génie ayant créé cette voiture.
Connais pas.
Normal, c'est pour ça que je t'en parle. Elon Musk est un Américain ayant créé plusieurs firmes, comportant plusieurs projets. Mais je crois que tu connais SpaceX.
C'est pas les gens qui ont envoyé un chat en orbite ?
Tu y es presque, puisqu'en fait, ils ont envoyé une voiture dans l'espace.
Ah oui, c'est ça. Et même qu'il y avait un Playmobil à l'intérieur.
Non, avec un mannequin. Je suis sûr que c'est toi qui m'en as parlé au début de l'année.
Ah bon ? Ah ! Maintenant que tu me le dis, la mémoire me revient. Elon Musk, il est né le 28 juin 1971 à Pretoria, en Afrique du Sud. Il a 47 ans, il a eu 2 femmes et 5 enfants. Sa fortune est même estimée à 21,3 milliards de dollars.
Waouh ! Ça fait bizarre quand la mémoire te revient.
Oui, je me reconnais plus.
Tu n'as pas tout dit sur ce génie. Il prévoit de faire un train supersonique qui s'appelle l'Hyperloop, pouvant effectuer Paris-Limoges en 30 minutes.
Ah oui, ce serait toujours mieux que Mende-Bal-Siège en 3 quarts d'heure.
Ça c'est sûr. Et tu sais qu'il a aussi... Ça c'est sûr. Et tu sais qu'il a aussi inventé XCOM, rebaptisé PayPal.
Cela signifie que sans lui, on pourrait pas faire de transactions sur Internet. Ah ouais, c'est fou.
Et tu n'as pas encore tout entendu. Son plus gros projet est de créer une fusée capable de transporter tous les hommes, ainsi que de la marchandise pour quitter la planète et aller sur Mars.
Ah ouais, cet homme est vraiment fort. Si j'avais su ce matin, en me réveillant, que j'allais apprendre autant de choses, moi maintenant, je veux devenir comme lui. J'irai aux 4 coins du monde pour le rendre meilleur.
Et si tu commençais par réussir ton permis ?
Merci beaucoup les gars pour cette magnifique chronique sur ce génial milliardaire. Donc maintenant, on place à l'atelier d'écriture qui va nous présenter son dernier travail. Mais avant ça, une petite pause musicale. À tout de suite.
Before there was hip hop, there was jazz. Before there was jazz, there was blues. And before the blues, we was happy. Is everybody happy? You've never been happy. Come on, get happy. You've never been happy. Time to go to church.
You
happy thing. It's not a gospel song. This song is not a funk song. This song is not a long song. This song is a real song. You never get happy until you try. You never get happy until you try. You never get happy. Gonna say again, here again.
Nous avons écrit deux textes avec des contraintes d'écriture. On a un temps imparti de 20 minutes et on doit élaborer une recette d'une pilule de notre choix en utilisant le champ lexical de la cuisine.
La recette de la pilule de la réussite. Ingrédients. Une tête, pas de nœud, remplie aux 3/4 de 3 kg mais gardée 1 kg d'espace libre. Une pincée de curiosité, 700 g de trucmuche scolaire, 20 cl d'ambition, 500 g d'espoir bien gras, 2 zestes de bonheur, 1 demi-piment, 400 g de responsabilité, 100 g de chocolat et 10 cl de café. Préparation. Partir d'une tête bien vide, creusez-la bien avec une cuillère mais avec précaution pour garder les neurones intacts. Ajoutez le trucmuche scolaire préalablement découpé en fins morceaux. Ajoutez avec précaution la responsabilité, puis la pincée de curiosité, le demi-piment et le chocolat sans modération. Dans un premier temps, mélangez le tout avec le café. Puis, en évitant les grumeaux, ajoutez l'ambition petit à petit. Ajoutez enfin l'espoir bien gras qui servira de liant pour la connexion interne des neurones. Vous pouvez maintenant recoudre la tête et cuire à très basse température, à 37 degrés, température du corps, pendant une nuit sous la couette. Service. Avant de servir, déposez les deux zestes de bonheur. Se conserve jusqu'à obtention du bac.
La pill bac, la pilule qui vous donne le bac. Les ingrédients. 2 litres de stress, environ 7 profs qui radotent, 3 carreaux de flemme, une vingtaine de fiches de révision que vous ne ferez pas, une poignée de manque de sommeil, 80 g de chance, une pincée d'avenir, 30 cl de divertissement et une cuillère à café d'organisation. Pour la préparation, premièrement, dans un saladier, hachez les 20 fiches de révision que vous ne ferez jamais. Y ajoutez-y 7 profs qui radotent râpés. En faire cuire le tout à la vapeur pendant 20 minutes et réduire en purée lisse, puis réservée. Deuxièmement, dans une casserole, faire fondre au bain-marie les 3 carreaux de flemme. Ajoutez-y 30 cl de divertissement, mélangez jusqu'à que cela soit homogène, puis ajoutez une pincée d'avenir. Faites refroidir sur le côté. Ensuite, dans un saladier, mettez une poignée de mangue de sommeil. 80 g de chance, une cuillère à café d'organisation et noyez le tout avec 2 litres de stress. Mélangez jusqu'à l'obtention d'une pâte semblable à la pâte à crêpes. Mélangez la purée avec les deux autres préparations jusqu'à avoir un mélange homogène. Ensuite, et finalement, prenez votre moule à 100 unités et remplissez-les avec le mélange. Laissez reposer une nuit de pleine lune au frigo. Attention, les conditions d'utilisation et de préservation. Cette pilule est à prendre 2 fois par jour, matin et soir. Ne pas consommer si vous prenez la pilule vacancière et si vous êtes retraité. À conserver au sec, à l'abri de la lumière et hors de la portée des enfants. Il y a aussi des effets secondaires, la dépression et le stress post-traumatique.
Merci beaucoup à l'atelier d'écriture pour participer à notre émission et clôturons maintenant cette édition avec Alexandre qui est allé interroger nos camarades sur le mot mystère du mois et qui va nous dévoiler son sens.
Alors, c'est le verbe musser qui veut dire se cacher, dissimuler.
Et non pas Alfred de Musset.
Musset, pour moi Musset c'est genre faire de l'art, voilà. Parce que ça fait penser comme un peu genre comme un peu une muse et ça fait comme un verbe noble. Il y a que les nobles qui utilisent ça. Du coup c'est genre faire de l'art mais de l'art pas contemporain, du l'art vraiment de l'art classique. Et bah au XVIIe siècle, bah pour être bien vu, bah c'était pas mal de savoir musser un peu toutes sortes d'art.
Musset. Je vois quelqu'un quand on fait la vaisselle, bah ça muse. Non mais c'est pas ça, mais c'est, non mais c'est un peu comme ça mousse, mais genre ça mousse, genre c'est plus doux, tu vois, c'est plus c'est pas des grosses bulles comme ça, ça mousse comme ça, c'est ça mousse, c'est plus, tu vois. Eh ben Jeanne quand elle fait la vaisselle, elle mousse très bien.
Musser, je sais pas, peut-être un truc dans l'art. Aujourd'hui je vais musser.
Musser, peut-être un synonyme de battre. Aujourd'hui j'ai musser Antoine.
Musser, je sais pas, ça me fait penser à un truc un peu comme aboyer, quelque chose comme ça. Genre un animal qui crie ou je sais pas. Ton chien a musé toute la nuit.
Musser, bah le définir, enfin ça me fait penser à l'auteur, mais je sais pas.
Alors musser, pour moi ça viendrait de museau. Le chien musse. Le chien remue, enfin bon, le chien musse quand son maître va lui donner à manger, par exemple.
Eh bien, très bien, cette émission est terminée. Merci beaucoup aux élèves du CHAP pour répondre à nos questions et supporter nos interrogatoires très gênants à chaque fois. Merci beaucoup aux jeunes de Youth for Climate d'avoir répondu à mes questions et de m'avoir éclairé sur quelques points. Merci à Erin d'être malade et de me laisser présenter cette émission à sa place. Merci à l'atelier d'écriture aussi de nous donner du grain à moudre. Et enfin, merci à toute l'équipe de continuer cette aventure avec moi. Et surtout, merci à 48FM de nous accueillir plus ou moins tous les mois dans ses locaux.
Merci et à toi,
au mois
Emily.
Prochain.
C'est drôle de t'avoir vu.
Jean-Antoine, il est l'heure de te lever. Jean-Antoine, il est l'heure de te lever.
Chaptime.
Chaptime.
L'interview du jour.
Actualité.
Biais d'humeur.
Revue de presse.
Micro couloir.
Oh, c'est compliqué à définir pour le coup.
C'est possible que les jeunes aient plus de vocabulaire que nous autres.
Ça veut rien dire.
Quelque chose d'inouï, dont on trouverait difficilement le terme.
Je sais pas moi.
On en apprend tous les
fois que je le connais, mais je suis pas sûre.
Non, c'est ridicule, pardon.